18h-19h, François Claus sur Europe 1.
Et toute la rédaction d'Europe 1 surtout, et Fatima, bonsoir Fatima.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
La rédaction d'Europe 1 mobilisée, vous au 39-21, on attend vos avis parce que l'actualité est presque aussi chaude que la météo. La météo bien sûr, on va y venir dans un instant, c'est la principale information du jour, une canicule absolument inédite. Pour la première fois, 20 départements sont en vigilance rouge. Elena Mornard, bonsoir Elena.
Bonsoir.
Vous allez nous dire dans un instant ce que ça signifie. On va parler de la PMA aussi, forcément grande réforme sociétale, avec débat, les auditeurs sont déjà, je vois les appels très mobilisés, le professeur Hirsch sera tout à l'heure avec nous. Mélanie Gomez, bonsoir. Vous allez nous expliquer ce... Voilà, dites bonsoir un peu Mélanie. Là.
Bonsoir,
ah ben voilà. Non, elle n'avait pas ouvert son micro. Le professeur Hirsch sera avec nous, vous allez nous décrypter cette loi. Puis évidemment, à partir de 19h15, le Tour de France et le Club Tour avec une victoire italienne aujourd'hui. Mais pas de changement, hein, du côté du jaune et du côté des leaders. Tout de suite, l'info du jour, Elena Mornard. Donc 20 départements parmi les 80 qui sont en vigilance orange sont passés en vigilance rouge. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, en fait, il n'y a pas de critères spécifiques pour passer du orange au rouge. Les vigilances sont gérées au cas par cas en fonction de plusieurs critères, par exemple comme l'intensité de l'événement. Et cette canicule est certes brève mais intense. La journée de demain sera historique avec des températures affolantes entre 40 et 42 degrés dans le nord, localement plus dans le Val-de-Marne. Par exemple, on pourrait avoir 43 degrés, du jamais vu dans certaines villes, même dans le sud. On va battre les records du sud. Autre critère, l'écart entre les températures prévues et les normales de saison. Là, on sera 15 et parfois 17 ou 18 degrés au-dessus des normales. Et le dernier critère, eh bien, ce sont les remontées du terrain dont on ne parle pas forcément, à savoir les hôpitaux ou encore les morgues. Alors, 20 départements en rouge demain sont concernés entre le nord de la Bourgogne et la région centre jusqu'au Hauts-de-France, l'est de la Normandie et l'ouest de la Champagne. La vigilance orange est maintenue partout ailleurs. Y échappent finalement la Bretagne, le Cotentin et les régions méditerranéennes. À signaler quand même ce soir des orages localement forts sur les reliefs du sud et parfois en plaine, comme ceux qui éclatent en ce moment entre le Limousin et l'Auvergne. Ce sera la même chose demain. Une journée ensoleillée, mais des risques orageux en soirée. Fin de cette canicule vendredi, chute des températures et pluie orageuse au programme.
Merci Elena pour toutes ces précisions. Allez, votre grand journal du soir, parti.
Bienvenue, il est 18h. Et jusqu'à 19h, votre grand journal avec François Claus.
Avant de retrouver tout à l'heure le Club Tour, évidemment à partir de 19h15, mais on va évidemment baliser l'actualité de ce mercredi. A commencer par un véritable tournant, parce que il est là, ce texte de loi, il a été repoussé sans cesse, il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu les Gilets jaunes, ce sera peut-être la grande réforme sociétale des années Macron. La possibilité pour toutes les femmes, seules ou en couple, d'avoir désormais un enfant. C'est la fameuse PMA, il y a également les questions sur la filiation, sur la possibilité de gérer une grossesse, de mettre ses ovocytes au frais, si on peut dire, pour pouvoir avoir une grossesse un petit peu plus tard. Il y a la question également de la stigmatisation ou non lorsqu'on est un enfant né de la PMA. Bref, c'est un immense débat de société qui correspond à l'évolution du temps et qui va crisper évidemment les opinions. Nous serons dans le journal tout à l'heure avec un couple de femmes qui a utilisé la PMA à travers une galère de plus de 3 ans dans les pays étrangers. Donc on verra ce que la PMA change pour elles. Beaucoup d'appels également au 39-21, on va vous entendre. Et le professeur Hirsch, l'une des grandes voix de l'éthique médicale en France, sera avec nous. L'autre grand titre de l'actualité du jour, vous avez entendu Elena Mornard, cette canicule qui était attendue, bien gérée, disons-le pour le moment, sur le plan sanitaire. On n'est absolument pas dans ce scénario noir et catastrophique de 2003, mais une France véritablement en chaos, 73 départements avec des mesures d'utilisation de l'eau restrictive, avec également des trains qui sont bloqués et la SNCF qui vient d'annoncer qu'il ne fallait pas voyager jeudi. On est en pleine période de vacances, là aussi des reportages et vos témoignages au 39-21. On parlera un peu de Marlène Schiappa, tiens, ça faisait longtemps. Puis on parlera de cinéma aussi en fin de journal, parce qu'il fait... C'est une bonne technique pour ne pas avoir le choix d'aller voir des films.
Dans les salles obscures.
C'est les sorties du mercredi, mais on sera également autour d'une polémique qui secoue le monde du cinéma français. La nomination du producteur très contesté Dominique Boutonnat à la tête du CNC, et Pierre Jolivet sera tout à l'heure avec nous en direct. Voilà, c'est riche, c'est chaud, c'est comme l'actu et c'est comme la météo. C'est votre grand journal du soir.
18h, 19h,
votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
Et comme tous les soirs, on va prendre la direction de la route du Tour. Bonsoir Axel May.
Bonsoir François.
Alors c'était la dernière étape avant ces fameux cols qu'on attend avec délectation. Tout va se jouer là dans les 3 prochains jours. En attendant, étape de baroudeur sous la chaleur. Et Axel, une victoire italienne.
Oui, c'est un cadeau d'anniversaire avec quelques jours d'avance que s'est offert Matteo Trentin, le champion d'Europe, aura 30 ans le 2 août. Et aujourd'hui, il a franchi en solitaire la ligne d'arrivée. La grosse échappée que nous vous annoncions hier dans le Club Tour s'est formée rapidement après le départ du pont du Gard. Hein. Oui, sacré décor. Plus de 30 coureurs dans l'échappée qui a éclaté dans le final. Et Trentin, dans la dernière difficulté de la journée, une belle petite montée. Lui qui est d'habitude un sprinter, s'est pris pour un grimpeur. Il a accéléré. Le peloton maillot jaune est arrivé avec, tenez-vous bien, 20 minutes de retard. Les favoris, vous l'aurez compris François, pour le classement général, ont gardé des réserves pour le triptyque alpin qui débute demain avec un enchaînement de sommets à plus de 2000 mètres où les coureurs retrouveront de la fraîcheur mais devront faire face au manque d'oxygène.
Et on attend sur le plan sportif évidemment ce grand duel, le Club Tour, 19h15, Axel May et les consultants d'Europe 1, Patrick Chassé, Thomas Voeckler.
18h04, on parle à présent de procréation médicalement assistée, la fameuse PMA.
Et oui, parce que c'est la grande réforme du jour. Elle était sur le projet de loi, était sur la table du Conseil des ministres. Alors, il va y avoir débat encore, puisque ce sera au Parlement l'automne prochain. Mais on a le cadre, Mélanie Gomez, le cadre notamment de cette possibilité pour toutes les femmes de devenir maman, même quand elles sont seules ou en couple homosexuel.
Et oui, alors pour ces femmes, Agnès Buzyn s'y est engagée. D'abord, ce sera totalement remboursé par la Sécurité sociale. Aujourd'hui, ces femmes seules ou en couple sont nombreuses, plusieurs milliers chaque année, à partir à l'étranger, par exemple en Espagne, pour concrétiser ce projet de bébé. Le problème, c'est qu'il n'y a que celles qui ont les moyens qui peuvent y avoir accès. Donc si on l'autorise en France, ce qui est sûr, c'est que ce sera pris en charge financièrement, comme pour les couples hétérosexuels. Enfin, avec ce changement, il va falloir aussi revoir les questions de filiation. Pour les hétéros, rien ne change, mais pour les couples de femmes, pour que les deux mamans puissent vraiment l'être une fois le bébé arrivé, elles devront faire une déclaration anticipée de volonté devant notaire. C'est-à-dire que les deux femmes engagées dans ce projet vont donc s'engager également à devenir le parent de l'enfant à naître. Ensuite, à la naissance, devant l'officier d'état civil, avec ce document, elles seront de fait tout de suite reconnues en tant que telles.
Alors, il y a dans ce cadre de loi, et qui suit également l'évolution de la science, cette possibilité désormais de congeler des ovocytes et donc pour les femmes de programmer finalement et de retarder une grossesse.
Bien sûr, alors ça sera donc la conservation d'ovocytes, la congélation, mais attention, ce sera très encadré. Les femmes, à partir de la trentaine, peut-être à partir de 35 ans précisément, pourront faire congeler leurs ovocytes. Aujourd'hui, c'est possible juste pour des raisons médicales, en cas de cancer par exemple, mais demain, toutes pourront le faire à partir de 35 ans et jusqu'à la quarantaine à peu près. L'acte médical de prélèvement sera remboursé. Par contre, elles payeront ensuite de leur poche la conservation. Ça vaudra à peu près une centaine d'euros par an.
Alors, le texte cadre la PMA et met des limites pour la GPA. Beaucoup craignent que mariage pour tous plus PMA, on arrive à la GPA, la gestation pour assister.
Alors là-dessus, effectivement, le gouvernement l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus. La gestation pour autrui, donc le fait d'avoir recours à une mère porteuse, restera bel et bien interdite en France.
Merci Mélanie Gomez et on attend vos avis au 31-21. Je vois que nous avons l'appel de Rose notamment, qu'on prendra tout à l'heure et le professeur Hirsch sera avec nous à 18h30.
18h06, votre grand journal François Claus.
Le grand journal, c'est aussi le vôtre au 39-21. Et je suis heureux d'accueillir Alain sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Alain.
Bonsoir François.
Allez, vous avez chaud Alain, je suis sûr.
Oh là là, oui, je suis dans Lyon. Je suis près d'Auxerre. On a dépassé les 40 degrés sans problème. Et de plus, je suis conducteur routier. Donc,
double peine.
Double peine. Parce que là, la journée, j'ai envie de vous dire, on met la clim et on essaie de se débrouiller. Mais le plus compliqué reste le soir, lorsqu'il faut trouver un petit coin d'ombre pour pouvoir se reposer. Quand il fait encore 30-35 degrés dans la cabine, trouver le sommeil est compliqué. Et quand il s'agit de reprendre la route le lendemain matin sans avoir dormi, ça présente quelques inconvénients non négligeables.
Ben, qu'on imagine, ça a été votre cas ces derniers jours, Alain, enfin ces dernières heures. Là, ce matin, vous avez repris le volant, par exemple, en vous sentant extrêmement fatigué.
Exactement. Et en plus, moi, j'ai un petit problème particulier. Je suis traité avec un respirateur qui m'aide la nuit à respirer contre l'apnée du sommeil. Et je ne peux pas l'utiliser parce que l'air qui m'est insufflé sous pression est beaucoup trop chaude. Et donc, je ne peux plus respirer au bout de 10 minutes. Donc, ce qui fait que déjà, j'avais cet appareil pour me permettre de me reposer davantage, mais là, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je me suis levé ce matin en prévenant mon responsable que je n'allais pas être au top de ma forme, et ce qui fait qu'on a essayé d'aménager, comme on le fait pour tous les collègues, un petit peu l'emploi du temps. Et je vais rouler un petit peu ce soir, de façon à rouler un petit peu à la fraîche.
Bah, écoutez, prenez un tout petit peu la route, vous écoutez votre grand journal du soir. hein, avec
comme
nous.
D'habitude.
Et puis on va essayer de vous rassurer. Demain, il va faire 43 du côté d'Auxerre. Je ne sais pas si vous circulerez encore dans l'Yonne.
Oui.
Mais vous avez entendu Elena Mornard.
Si c'est rassurant,
hein,
surtout.
C'est fini vendredi.
Je souhaite beaucoup de courage à tous mes collègues.
Voilà, et puis alors là, vous rentrerez vous reposer, il fera frais, et puis là, vous vous octroierez après des litres et des litres d'eau, un petit verre de Chablis dans votre belle région, et ça ira mieux à ce moment-là.
Avec modération,
merci,
bien entendu.
Merci, avec modération, merci de m'avoir donné la parole.
Et on le voit, cette canicule, elle a des conséquences sur les transports, on en parlera tout à l'heure, il y a de nombreux trains qui sont bloqués, des pannes, un Thalys, des caténaires qui fonctionnent mal, et la SNCF vient de conseiller donc aux voyageurs de ne pas prendre le train demain. C'est quand même dommage en pleine période de transhumance et de vacances. Mais voilà, c'est la France à l'heure de la canicule.
Allez, on se retrouve. On se retrouve dans un instant justement pour parler de cette canicule avec votre premier invité, François, ce sera Général François Pradon, chef d'état-major interministériel. Non, je me trompe complètement, en fait, on va parler des deux. On va parler.
Non, mais il sera là avec nous.
Voilà aussi,
il sera
pour
là
un
dans
autre
quelques
sujet,
minutes.
En fait.
Ben non, mais c'est la prévention contre les incendies, parce que qui dit canicule dit sol très sec et les pompiers sont sur les dents. On va voir quel est le système mis en place pour éviter que ça ne s'embrase partout dans le pays.
Allez, restez avec nous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Jusqu'à 19h, votre grand journal du soir, François Claus.
Je ne sais pas si ça va rassurer Alain, mais voilà, la canicule, elle est partout, et même à Paris. À Paris, grande ville, et où il y a ces îlots de chaleur. Paris, qui est une ville très densément peuplée, et il fait en ce moment pas loin de 40 degrés du côté de Paris. Très, très chaud. Alors évidemment, même à Paris, on essaie de trouver des havres de fraîcheur. Bonsoir Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Alors vous êtes allé à la recherche d'un havre de fraîcheur, vous en avez trouvé un. Alors c'est au nord de Paris, le bassin de la Villette, et j'imagine que c'est l'affluence des grands soirs, Jean-Gabriel.
Ah oui, l'espace baignade au bassin de la Villette affiche même complet. Hein. Le quota de 2300 baigneurs a été dépassé et on profite des transats, de l'eau, une eau à 25 degrés quand il fait 39 à l'ombre. Cédric qui gère le personnel ici.
Ça fait un petit peu frais quand on rentre dans l'eau, mais l'eau elle est bonne. Et chacun vient chercher de la fraîcheur, oui, c'est pour ça qu'il y a du monde.
Du monde en maillot, comme Didier qui sort de l'eau, il travaille comme chef cuisinier, et après son service de midi, il est venu savourer un moment de fraîcheur.
Elle est pas mauvaise, on va dire. C'est assez agréable. J'habite à côté, ouais. Puis bon, c'est agréable d'avoir ça à Paris, quoi. C'est un peu les vacances, un avant-goût des vacances, et c'est agréable.
Certains ont carrément posé leur journée pour profiter de cet avant-goût de vacances. C'est le cas de Myriam et de Corinne, la petite cinquantaine, venue au bord du bassin pour une après-midi entre copines.
On n'a pas travaillé cet après-midi, on est venu se baigner et cet après-midi on fait pique-nique.
C'est du repos, des vacances, c'est les vacances à Paris, c'est très agréable. On a la chance de vivre à Paris et de pouvoir profiter de se baigner, de se faire bronzer. C'est le bonheur. Vigilance rouge par rapport à la chaleur, ça ne nous fait pas peur. On est prête à affronter la chaleur.
On est prête à affronter la chaleur sur une chaise longue, c'est un peu plus simple. Bouteille d'eau à portée de main avant de sortir le pique-nique donc pour ce soir.
Et on peut prolonger tout ça avec une petite partie de pétanque le long du canal de l'Ourcq également, Jean-Gabriel, puisque en ce moment c'est Paris-Plage. Et on le voit, des Parisiens qui sont heureux aussi d'avoir finalement le soleil. C'est très très chaud. Merci Jean-Gabriel Bourgeois.
Europe 1, 18h13, François Claus.
Nous sommes en direct avec le contrôleur général François Pradon. Bonjour mon général.
Bonjour.
Vous êtes chef d'état-major interministériel pour la zone sud de la sécurité civile. Nous avons, à l'heure où nous parlons, 80 départements en vigilance orange, du jamais vu dans l'histoire française. J'imagine que vous êtes sur les dents en matière de surveillance, de prévention et d'intervention.
Tout à fait, pour ce phénomène important, donc une vigilance de tous les instants comme à l'accoutumée, mais encore plus sur les secours, je dirais classiques, et sur les secours notamment, et la prévention sur les risques incendies de forêt.
Alors sur ces risques incendies, on constate depuis quelques jours des feux d'un nouveau type qui se développent un petit peu partout en France, le long des voies de chemin de fer, avec les étincelles, même sur les routes avec un éclatement de pneus, on l'a vu dans les départements de l'Ouest. Donc des feux d'un type nouveau, y compris en Île-de-France. Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure de contrôler cette nouvelle situation liée à la sécheresse des sols ?
Des nouveaux types, pas forcément. Ce qui est important, c'est le nombre de départs de feux que nous avons et que nous avons pu constater. Comme au fin juin dans le Gard, où nous avons eu plus de 70 départs de feu, je dirais en pratiquement une heure. Et donc c'est cette succession de départs de feu qui peut à un moment donné mettre à mal la réponse opérationnelle. Mais aujourd'hui, on est suffisamment dimensionné au niveau des services départementaux d'incendie de secours pour faire face. Mais effectivement, hier, nous avons eu plusieurs départements, notamment l'Essonne, notamment dans le Puy-de-Dôme, où il y a des feux qui se sont déclarés sur des zones où c'est pas normalement, je dirais, propice à des éclosions d'incendie, même en été.
Alors, depuis 2003, il y a, contrôleur général François Pradon, un dispositif de prévention qui est mis en place pour l'ensemble des services français. Expliquez-nous comment ça fonctionne un petit peu. Ça commence par la surveillance aérienne et par les hommes au sol, j'imagine.
Bah écoutez, on a une surveillance aérienne, bien entendu, pour détecter des incendies de forêt dans les meilleurs délais. Et notamment, en moins de 10 minutes, on essaye d'avoir un avion de surveillance et aussi un avion d'intervention qui peut intervenir sur un feu, puisque la doctrine française est d'intervenir dans les plus brefs délais pour étouffer le feu avant qu'il prenne de l'importance. Ensuite, ce maillage territorial est fait aussi au plus près des forêts par les services départementaux, qui mettent donc des engins d'incendie et de forêt le plus près possible dans les massifs forestiers, là où il y a des risques, pour intervenir aussi également avec la coordination des avions dans les meilleurs délais pour éteindre l'incendie.
La France dispose actuellement de 8000 camions anti-incendie, de 23 bombardiers, dont 12 canadaires. On estime qu'en moins de 24 heures, de 15 à 20 000 soldats du feu peuvent être mobilisés. Est-ce que ces moyens sont suffisants par rapport à la situation du moment ?
Écoutez, par rapport à la situation du moment, on est largement dimensionné, sauf que effectivement, quand il peut y avoir des journées très très difficiles, comme on l'en a connu par le passé et comme malheureusement on peut être amené à le connaître cette année, la flotte bombardier d'eau notamment est soumise à rude épreuve. Aujourd'hui, on a une disponibilité proche de 100%, puisqu'on n'a qu'un seul avion indisponible qui va être donc sorti assez rapidement de réparation. Et donc avec cette flotte à 100% plus, je dirais, les engins incendies, comme vous avez dit, les 8000 camions incendies dans les 10, on a une flotte qui est et un nombre d'engins qui est dimensionné suffisamment pour 95% ou 98% des jours. Et effectivement, quand il y a des difficultés importantes, on peut faire appel au niveau européen à des Canadaires, soit italiens, soit espagnols, qui viennent nous renforcer, comme ça a été le cas en 2017.
Dernière question. 90% des départs de feu sont d'origine humaine. Ils pourraient donc être évités. Les conseils, c'est le moment ou jamais de les formuler.
Écoutez, les conseils, c'est des conseils de prudence normale, c'est-à-dire trois choses essentielles. De ne pas faire de travaux à l'approche des forêts. Malheureusement, on a encore trop souvent de personnes qui meulent, qui font de la disqueuse avec des étincelles donc sur des travaux. La deuxième cause principale, ça peut faire sourire, mais on est encore capable de faire des barbecues en forêt ou de fumer en forêt quand on se promène. Et donc là, c'est aussi une deuxième cause importante, et donc c'est à prescrire complètement. Et la troisième chose, c'est de ne pas laisser son mégot à travers la fenêtre de la voiture, de pas le jeter. On n'est pas contre les fumeurs, mais on est contre ceux qui, malheureusement, avec un mégot de cigarette, peuvent mettre le feu sur en bas côté de la route, comme c'est actuellement le cas, où les herbes et les broussailles sont très très sèches, même coupées. Et donc, s'il y a la forêt en continu, on a des gros départs de feu, malheureusement, qui peuvent survenir derrière. Donc, ces trois causes essentielles sont, effectivement, comme vous l'avez souligné, 6 ou 7 feux sur 10. Et qui pourrait être largement évité.
Merci d'avoir sur Europe 1 reformulé ces conseils d'actualité, vous l'avez compris. Merci à vous, Général François Pradon, chef d'état-major interministériel de la zone sud de la sécurité civile, d'avoir été ce soir en direct sur Europe 1.
Bonsoir.
18h, 19h, François Close sur Europe 1.
Et à 18h, presque 19, le rappel des grands titres, l'actualité du jour avec vous, Sophie Echen. Bonsoir Sophie.
Bonsoir François. 20 départements du nord de la France en alerte rouge canicule. La ministre de la Santé Agnès Buzyn appelle à la plus grande prudence. L'autorité des transports d'Île-de-France et la SNCF demandent à leurs clients de limiter, reporter ou annuler leurs déplacements dans la mesure du possible. Alors que le mercure doit encore monter demain, dans le reste du pays, 60 départements sont toujours en vigilance orange.
Boris Johnson promet une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre, coûte que coûte. Le nouveau Premier ministre britannique, investi aujourd'hui, a prononcé son premier discours devant Downing Street. Boris Johnson qui a répété que si la sortie devait se faire sans accord, son pays serait prêt. Le projet de loi bioéthique sera examiné par les députés à la rentrée. Dans le texte, cette mesure phare, l'élargissement de la procréation médicalement assistée, la PMA, à toutes les femmes célibataires et lesbiennes. Des associations anti-PMA ont déjà prévu de manifester à Paris le 6 octobre prochain. Et puis Matteo Trentin remporte la 17e étape du Tour de France. Alaphilippe reste en jaune, les écarts restent inchangés. Demain, première étape dans les Alpes.
Merci Sophie Hachen.
18h20 à suivre dans votre grand journal du soir. Plus de détails sur ce fameux projet de loi bioéthique, notamment sur la procréation médicalement assistée. On reviendra aussi avec François Claus sur l'affaire Geneviève Le Guay. Souvenez-vous, cette retraitée blessée à Nice lors d'une manifestation. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Bonne soirée à tous. Jusqu'à 19h, votre grand journal du soir avec François Claus.
Et on évoquait avec Mélanie Gomez au début de votre grand journal du soir les avancées que la loi PMA, procréation médicalement assistée, pouvait apporter en France. Je vous propose d'écouter un reportage réalisé par Arnaud Rozac cet après-midi. Cette procréation médicalement assistée jusque-là interdite en France, se pratiquer dans des pays à l'étranger, générer des situations souvent très compliquées pour des femmes seules qui voulaient avoir un enfant ou pour des couples homosexuels qui cherchaient à avoir un enfant. Reportage réalisé par Arnaud Rozac à Vincennes, tout près de Paris, avec Delphine, 39 ans.
Dans son salon, au milieu des jouets de son petit garçon âgé de 2 ans, Delphine se remémore les nombreuses galères de sa première grossesse. Trouver le bon gynéco, mentir à son patron à chaque aller-retour en Belgique et savoir rebondir après les inséminations ratées.
Chaque échec, vous le prenez comme n'importe quel couple, assez difficilement parce que vous mettez beaucoup d'espoir. Et puis il y a un coût. Si c'était légal en France, c'est remboursé. Nous, on paye chaque examen médical et chaque déplacement. Donc en moyenne, c'est pour une insémination artificielle 1000 à 1200 euros.
Un an et demi après les premières démarches, le soulagement de tomber enceinte. Sa grossesse est suivie comme toutes les autres en France, mais quelques jours après la naissance, de nouveaux obstacles apparaissent. Delphine est la seule des deux parents à être reconnue par l'État. Le couple lance alors une procédure d'adoption pour qu'Émilie le soit à son tour. C'est le début d'un long calvaire judiciaire éprouvant pour les deux femmes.
Ça sonne à la porte et là c'est donc ma conjointe qui arrive avec un policier et qui dit je vais inspecter votre maison. Donc le policier a ouvert les placards dans la chambre de mon fils pour vérifier le nombre de petits vêtements qu'il y avait, le nombre de jouets. J'ai eu l'impression d'être une délinquante. J'ai eu l'impression que du moment où on a décidé avec ma femme d'avoir un enfant, on était considérés comme des hors-la-loi. Et ça, c'est insupportable parce qu'en fait, on a juste eu un enfant. On n'a rien fait de mal.
Aujourd'hui, elle espère de tout cœur que la loi soit adoptée. La jeune maman, qui va accoucher d'un deuxième enfant dans les prochains jours, sait que sa vie aurait été différente si ce texte avait vu le jour quelques années plus tôt.
On aurait pu avoir un enfant sereinement. Là où on a eu un enfant dans la complication, dans la douleur. Je pense que pour toutes ces femmes-là, ça va être super. Moi, hélas, j'arrive trop tard. Si la loi, elle était passée avant, j'aurais probablement eu un troisième enfant. Aujourd'hui, je ne pourrais pas.
Si la loi arrive trop tard pour elle, Delphine espère qu'elle pourra au moins changer le regard des autres sur la situation des couples lesbiens.
Merci Arnaud Rozac pour ce reportage. Et on sera avec le professeur Hirsch qui sera avec nous en direct dans maintenant 6 minutes.
18h24, tout de suite dans votre grand journal du soir, direction Nice, François.
Nice, où l'on va reparler de ce qui a été l'un des moments très forts dans le mouvement des Gilets jaunes. Vous vous souvenez certainement de cette militante Geneviève Le Guay, grièvement blessée alors qu'elle participait à une manifestation interdite de Gilets jaunes. C'était le 23 mars dernier. Bonsoir Salomé Legrand du service police-justice. Alors, il avait d'abord dédouané avec force les policiers accusés d'avoir fait tomber cette dame. Voilà que le procureur de Nice s'explique devant sa hiérarchie et Salomé avec un bien étrange argument. C'est Le Monde qui nous le révèle, nos confrères du Monde. Aujourd'hui, le magistrat a dit ne pas vouloir tout simplement embarrasser le président de la République.
Oui, parce que le président de la République s'était exprimé avant même le procureur dans les colonnes de Nice Matin en affirmant que Geneviève Le Guay n'avait pas été en contact avec les forces de l'ordre. Le lendemain, le procureur de Nice soutenait cette même version, pas de contact, malgré des images qui existaient de la scène, avant de faire un revirement complet 4 jours plus tard. La chute de la militante est bien due, dit-il alors, à un geste d'écartement du bras d'un policier. Le magistrat a donc été convoqué par sa hiérarchie et a expliqué, entre autres, n'avoir pas voulu donner une version trop divergente de celle d'Emmanuel Macron. La nature de ses propos nous a été confirmée sans citation exacte, mais l'argument fait réagir jusqu'au plus haut niveau. Dans l'entourage de la ministre de la Justice, on souffle. Quand on est procureur, on doit avoir une déontologie. Autre reproche fait au magistrat, celui d'avoir nommé pour mener l'enquête la compagne du policier qui a ordonné la charge. Pour autant, il n'a pas été sanctionné, mais l'enquête, elle, a été dépaysée à Lyon.
Et c'était l'enquête de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
François Claus, 18h26. Et dans un instant, nous allons parler de tout autre chose. Restez avec nous dans votre grand journal du soir.
Alors, Elena Mornas, il y a une personne qu'on a envie d'entendre, c'est bien vous. C'est, bon, bah, chronique d'une canicule annoncée, ouais. Elle est là, mais on est quand même surpris tant cet événement météorologique est exceptionnel, hein, par cette chaleur accablante.
Oui, oui, c'est vrai qu'on passe en rouge, hein, le thermomètre devient fou, une folie qui demeure cette nuit d'ailleurs avec des valeurs remarquablement douces, 26 degrés demain au lever du jour à Paris, puis dans les 20 départements en vigilance rouge, soit entre les Hauts-de-France, la Normandie, la région parisienne, le nord de la région Centre et une partie de la Champagne et de la Bourgogne, eh bien les températures iront de 39 à 42 degrés, voire parfois plus. Hein. Des tristes records en pagaille attendus pour demain. Par ailleurs, 60 départements maintenus en alerte orange avec 35 à 40 degrés demain après-midi. Seul secteur respirable, finalement, le pourtour méditerranéen, la Bretagne et le Cotentin. Alors demain, comme aujourd'hui, sera ensoleillé, mais attention aux orages de fin de journée sur les reliefs, ils seront parfois forts. À propos d'orages, on va payer cher le rafraîchissement attendu vendredi sur l'ouest avec de fortes pluies. Il se fera au prix, justement, de violents orages sur l'ouest.
C'est ce qu'on appelle la météo folle. Hein. On était en alerte canicule. On sera en alerte orange à partir de vendredi.
Vous allez tout deviner.
On aura plus,
mais après, ça ira mieux. Ce sera plus calme.
On aura plus de fraîcheur. Et le Premier ministre, Édouard Philippe, qui visitait un EHPAD, un établissement pour personnes âgées, a lancé un appel ce soir de faire très attention aux personnes isolées.
Si je peux me permettre, il faut aussi faire attention à soi, parce qu'on n'a jamais vu des personnes en bonne constitution souffrir en ce moment, comme
c'était
en ce moment de la chaleur.
C'était le message d'Agnès Buzyn depuis deux jours. On peut signaler que sur le plan de la santé publique, par rapport à ce qu'a été la vague de chaleur de 2003, et avec ces centaines de victimes, on en est pour le moment très très loin. Il y a une bonne gestion. À 18h, presque 30 minutes, le rappel des grands titres de l'actualité du jour avec Sophie Hachen.
Vous venez de l'entendre, alerte maximale à la canicule dans 20 départements du nord de la France. Une alerte météo et sanitaire. La ministre de la Santé appelle à redoubler de prudence. Personne n'est sans risque face à de telles températures, déclare-t-elle. La circulation différenciée est reconduite à Paris demain, jour de pic de canicule. Elle sera mise en place à Strasbourg. Et du côté des transports en commun, les franciliens sont invités à limiter leurs déplacements. La SNCF demande à ses clients de reporter ou annuler ses voyages dans la mesure du possible. La canicule qui sévit un peu partout en Europe, record de chaleur battu aujourd'hui en Belgique et aux Pays-Bas, près de 39 degrés enregistrés dans les deux pays cet après-midi. C'est officiel, le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre. Cet après-midi, la reine Elisabeth II a nommé officiellement Boris Johnson. Il succède à Theresa May qui a quitté le Parlement sous les applaudissements tout à l'heure. Boris Johnson prend la tête du gouvernement britannique avec une priorité, mener à bien le Brexit et ce sera le 31 octobre, quoi qu'il arrive, a-t-il déclaré lors de son premier discours. L'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et sur les rails. Le texte a été dévoilé en Conseil des ministres aujourd'hui. Il sera présenté à l'Assemblée nationale en septembre. Une vingtaine d'associations anti-PMA annoncent déjà une manifestation en octobre à Paris. Le Tour de France, c'est Alaphilippe toujours en jaune à l'issue de la 17e étape aujourd'hui. Une étape remportée par l'Italien Matteo Trentin. Au programme demain, trois cols, dont deux hors catégorie pour la première étape dans les Alpes.
Merci Sophie Hachen.
18h, 19h, votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
C'est une des grandes voix de l'éthique médicale en France et nous sommes heureux de l'avoir ce soir en direct avec nous dans le studio d'Europe 1. Bonsoir professeur Emmanuel Hirsch.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'éthique médicale, vous êtes le président du conseil pour l'éthique de la recherche à l'université de Paris Saclay. Pourquoi fallait-il absolument, professeur Hirsch, aujourd'hui accepter l'idée de cette PMA, de cette procréation médicalement assistée qui donne le droit à des femmes seules ou à des femmes en couple d'avoir un enfant? Il y avait urgence?
D'abord, avant de répondre précisément à votre question, félicitons-nous qu'aujourd'hui les questions de bioéthique soient des questions publiques. Au tout début, rappelez-vous, quand on a créé le comité consultatif d'éthique, c'était des sages, des experts. Là, il y a eu du débat, il y a eu de la concertation et le comité d'éthique organisait des états généraux. Donc, ce n'est pas uniquement le gouvernement qui, à un moment donné, décide cette option. Il y a eu des évolutions, Il y a eu d'abord le mariage pour tous, qui a été une évolution importante sociétale, qui s'est construite dans le temps. Il y a une acceptabilité aujourd'hui de la socialisation de questions médicales. La vraie question de la MP aujourd'hui, de l'assistance médicale à la procréation, pendant des années, depuis les lois de bioéthique, les premières de 1994, c'était pour répondre à un problème de stérilité. Et aujourd'hui, on parle de stérilité sociale. C'est-à-dire que des personnes qui vivent entre elles, par rapport à des choix qui sont des choix personnels, disent qu'elles aspirent, elles également, à bénéficier du droit d'avoir un enfant. Alors, on peut toujours discuter. Et en matière d'éthique, on est dans une démocratie. Donc, on doit respecter les positions religieuses, les représentations que certains peuvent avoir de la famille. Aujourd'hui, il y a une avancée. On verra dans les années qui viennent comment elle va se mettre en œuvre. Et puis, il faut être assuré, ça ne touche pas énormément de personnes. C'est un symbole extrêmement fort pour moi dans la vie démocratique.
Et vous comprenez qu'il y ait tant d'inquiétude dans le pays par rapport à cette, on va dire, pernicieuse et lente progression du progrès médical qui va jusqu'à faire dire qu'on échappe au principe humain à un moment donné.
Alors là, c'est une autre question. D'abord, ils ne sont pas pernicieux en soi. Il faut les accompagner, et l'intérêt, c'est que la France...
C'est-à-dire qu'on va au-delà de la nature, c'est ça que je veux dire.
Je suis d'accord, mais regardez l'intelligence du modèle français. Nous avons une législation, et on a régulièrement une révision de cette législation. C'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va avoir une nouvelle loi. Donc ce qui est important, c'est d'étudier l'impact d'un certain nombre d'avancées. Là, pour l'AMP accessible à des personnes, pour des questions qui ne sont pas de stérilité, c'est pas une avancée biomédicale, c'est une avancée sociétale. C'est-à-dire que ça n'a rien de médical en soi. C'est uniquement, effectivement, on utilise des techniques à des fins, aujourd'hui, sociétales. Encore une fois, c'est des questions fondamentales dans une démocratie, puisque celles et ceux qui y aspiraient disaient que c'était une question de justice, puisqu'il y avait une possibilité de bénéficier de ces avancées biomédicales. Au nom de quoi, au nom de quel principe pouvait-on le leur refuser? Donc, encore une fois, ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait débat. Il y a eu débat, il y a eu concertation, et une concertation de haut niveau. Vous savez, entre la loi de 94 et aujourd'hui, l'opinion publique a avancé. Et vous avez un sociologue qui dit, c'est Durkheim, la morale, c'est l'état d'esprit de la société à un moment donné. Ce qui me semble beaucoup plus dangereux et qui n'a pas vraiment été totalement abordé dans la loi de bioéthique, c'est les neurosciences, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir sur la conscience humaine, sur la personne, sur ses comportements, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc vous avez la robotique, vous avez tout un champ, c'est ce qu'on appelle le nouveau territoire de la bioéthique, qu'on a mis un petit peu, j'allais dire, de côté, alors qu'ils sont beaucoup plus fondamentaux au niveau de la transformation de notre regard sur l'homme. Et quand vous avez posé votre question, je suis sûr que vous pensiez au transhumanisme. C'est-à-dire comment
c'est
aujourd'hui...
C'est un argument qui a été utilisé, voilà, y compris par des hommes politiques comme Guillaume Larive. Et c'est un problème qui rejaillit également du côté de nos auditeurs. Professeur Yé, je vous propose peut-être d'établir un dialogue, parce que Rose est au téléphone avec nous. Bonsoir, Rose.
Bonsoir, François.
Vous nous appelez du département de Loire-Atlantique, Rose, et nous voulions entendre votre opinion, et le professeur Hirsch vous écoute.
Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que, j'ai 73 ans, et je ne comprends pas cet acharnement. Je veux pas vous parler de mode, parce que c'est moche, mais cet acharnement pour avoir des enfants, si la nature en a décidé autrement. Alors, je vais vous... La phrase qui gêne tout le temps, de mon temps, où tu pouvais avoir des enfants, où tu pouvais pas en avoir, point, barre. Éventuellement, on pouvait adopter. Et là, maintenant, on se met à fabriquer des enfants à tour de bras. Demain, on va les vouloir avec des yeux bleus, avec des facultés supérieures, parce qu'on va finir par manipuler, c'est pas possible. Alors, je comprends pas. Et puis, on parle d'égalité homme-femme à avoir des enfants et tout. Mais bon sang, demain, ils vont vouloir porter les gosses, les mecs, c'est pas possible.
Alors, professeur Hirsch, merci Rose de nous avoir appelé.
Excusez-moi, mais je suis presque un peu en colère.
Mais on est là pour vous écouter et on entend justement et votre inquiétude et votre colère. Professeur
Hirsch. D'abord, je dirais à Rose que je comprends totalement son point de vue. Et je n'ai pas mon opinion personnelle. On me demande de commenter les évolutions, j'ai aussi mes convictions. Mais juste Rose, rappelez-vous une chose. En 1976, on a eu la loi Caillavé sur les prélèvements d'organes. Il y a eu des discussions, est-ce qu'on peut prélever sur un cadavre des organes? Et à l'époque, il y avait des gens qui réfutaient cette possibilité en disant que c'était une transgression faite à la condition humaine et un cadavre. Regardez aussi la finalité de toutes ces avancées biomédicales, c'est quand même améliorer les conditions de santé de personnes, sauver des vies humaines. Alors que dans le domaine de la procréation médicalement assistée, on se pose des questions, je trouve que c'est tout à fait sain, c'est tout à fait serein. On n'impose rien. Il y a une évolution biomédicale et j'étais attentif à ce que des personnes qui revendiquaient le droit à juste titre d'aspirer finalement au bénéfice d'une assistance médicale à la procréation et qui avaient des problèmes de stérilité de couple disaient « mais est-ce que demain on ne va pas être disqualifié par rapport à des gens qui seront trop nombreux et finalement on manque d'ovocytes. Encore une fois, toutes ces questions sont des questions fondamentales. Mais je dis à Rose, il y a eu des états généraux de la biomédecine, tout le monde a pu s'exprimer et je sais que le Parlement est totalement attentif à ce qu'il y ait maintenant une prolongation des débats.
Nous n'en sommes évidemment qu'au projet de loi. Rose, un petit mot de conclusion
si
pour
je
vous
peux me permettre, allez-y. Si je peux intervenir. Il y a aussi une chose. Bon, j'ai eu le cas dans mon entourage d'une dame qui a eu une PMA, mais il y a longtemps, puisque le bébé, il a 25 ans maintenant. À l'époque, en francs, alors je ne sais pas comment faire la conversion, ça avait coûté 400 000 francs, ce qui faisait le prix d'un demi-pavillon.
Ben c'est peut-être précisément Rose et le professeur Hirsch va vous répondre pour éviter ces cas extrêmes de voyages improbables à l'étranger, de entre guillemets charlatans qui permettaient à des femmes d'avoir des enfants quand elles ne le pouvaient pas.
Il y a un tourisme procréatif et on sait que ça pose également le problème de la GPA, mais Rose a tout à fait raison dans son approche. On a évalué, c'est la ministre de la Santé qui a dit, cette ouverture à des couples homosexuels, à peu près de l'ordre de 15 millions d'euros. Mais encore une fois, ce n'est pas uniquement l'aspect comptable, il y a toute une valeur symbolique. Et je ne vois pas au nom de quel principe on peut refuser à des personnes qui ont fait un choix de vie, qui est le leur, de pouvoir bénéficier d'enfants. Alors se posent maintenant les questions, et ça a été énormément débattu dans les travaux préparatoires, et ça va être débattu au Parlement à partir de septembre prochain. Est-ce que c'est normal qu'un enfant n'ait qu'une mère ou n'ait que des mères ou n'ait que des pères ?
Il va y avoir tout le débat sur la filiation, sur
la filiation,
la mention sur l'acte de naissance intégral notamment. La possibilité pour éventuellement un enfant né d'une PMA d'aller rechercher son père à partir de l'âge de 18 ans, ce sera discuté également.
Toutes ces questions sont l'accès aux origines. Mais juste un point, c'est vrai qu'on est face à des circonstances inédites et je pense qu'il ne faut pas s'adapter en disant on accepte tout. Mais il faut voir qu'il y a des valeurs qui sont posées. Et la chance qu'on a en France, c'est d'avoir une réflexion bioéthique et qu'elle est portée à un certain niveau. Mais la parole de Rose, je vais partir en y pensant.
En y pensant, bien évidemment. Bien sûr. Et merci beaucoup, Rose, d'avoir participé à ce débat. Merci, professeur Hirsch, d'être venu ce soir en direct sur Europe 1. Et on est appelé à se reparler,
hein, avec
vous
plaisir.
Et les auditeurs. Merci à vous.
Europe 1. Gilets jaunes en jugement et inquiétudes météorologiques autour des JO de Tokyo en 2020. Ce sont les prochains sujets d'actualité que nous aborderons avec François Claus sur Europe 1. A tout de suite. Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, 18h40, votre grand journal du soir avec François Claus.
Et on va prendre la direction du Mans dans la Sarthe. Bonsoir Théo Manval.
Bonsoir François.
Procès très attendu au Mans cet après-midi, une forme de flashback un peu. Six gilets jaunes étaient en effet jugés au tribunal correctionnel pour cette irruption dont tout le monde se souvient nocturne le 24 mai dernier au domicile de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Elle avait dénoncé, vous vous souvenez, des menaces de mort. Finalement, les six prévenus ne sont jugés que pour, je cite le droit, organisation de manifestations non déclarées, agression sonore et injure. Alors Théo, ce procès s'est déroulé, vous allez tout nous dire, dans un climat particulier.
Oui, une audience longue, elle est toujours en cours, ça fait plus de 4 heures. Les 6 prévenus ont tous reconnu avoir participé à cette manifestation nocturne du 24 mai dernier, mais nié en avoir été les organisateurs. Ils ont reconnu l'arrêt devant le domicile de Marlène Schiappa et pour la plupart, effectivement, opté pour une défense tout en dérision. Le tapage nocturne au corps de chasse à minuit et demi. Je n'ai pas soufflé aussi fort que lors d'une partie de chasse à cour. Je suis désolé si je les ai dérangés dans leur sommeil, sourit l'un des prévenus. Les injures, pute, elle est branchée sexe. C'était de l'humour, j'ai voulu une rime, elle était ratée, poursuit un autre. Pas vraiment du goût de la présidente du tribunal, agacée, ni du compagnon de la secrétaire d'État, seul membre de la famille présent à l'audience. Il est venu redire le vacarme en pleine nuit, les propos entendus, collabo, on va te crever, la peur de ses enfants. L'avocat de Marlène Schiappa a demandé 1 euro symbolique de dédommagement. Le procureur a lui requis des interdictions de manifester, des amendes jusqu'à 1000 euros et jusqu'à 2 mois de prison avec sursis pour ceux qui ont prononcé les injures sexistes. La parole est en ce moment, François, aux avocats de la Défense.
Et on vous entendra évidemment, Théo, dans les journaux de la matinale demain sur Europe 1 pour avoir l'issue de cette audience effectivement particulière.
Et vous avez un avis sur l'actualité, n'hésitez pas à nous appeler au 3921, le standard d'Europe 1.
Bonsoir Léa.
Bonsoir.
Merci d'avoir appelé le 3921, de nous suivre sur Europe 1. Plaisir de vous accueillir à l'antenne. Vous vouliez réagir aux propos que vous avez entendus, Mélanie Gomez, le professeur Hirsch et le reportage peut-être également de Arnaud Rozac. Nous vous écoutons Léa.
Alors écoutez, déjà je me présente, alors Léa, j'habite près de Maubeuge et je suis une femme célibataire de 30 ans. J'ai privilégié mes études, donc je suis assistante sociale jusqu'à 27 ans et à partir de 20 ans, je n'ai plus de règles. Je suis allée chez le médecin qui m'a dit que effectivement j'étais malade mais on ne sait pas ce que c'est et que je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement. Donc, il faudrait que je sois médicalement assistée. Alors, la PMA est un bon progrès pour ça, et moi, j'aimerais justement que ça soit développé pour les femmes célibataires seules, parce que je pense que toute femme a quand même droit de connaître la maternité.
Oui, c'est intéressant d'entendre votre témoignage, Léa, parce qu'on était tout à l'heure avec Rose, l'auditrice, qui disait, mais il faut laisser la nature, et quand on ne peut pas avoir d'enfant, on ne peut pas avoir d'enfant. Vous, qui aviez ce désir d'enfant, qui n'avez pas pu en avoir, j'imagine que vous attendiez ce projet de loi avec énormément d'impatience.
Bien sûr, oui. Et puis, je n'ai pas forcément envie d'être avec quelqu'un. Et puis même, ça fait déjà plusieurs années que je suis célibataire et je pense qu'une femme seule peut quand même élever un enfant.
Quand vous entendez les arguments dans le débat public pour le moment, un enfant a besoin de son papa, qu'est-ce que vous répondez ?
Bah écoutez, non, pas spécialement, parce que moi, j'ai grandi déjà sans papa. Ma mère m'a élevée seule, de 15 à jusque maintenant, et voilà, et j'en suis pas plus mal. J'ai réussi à faire mes études, je suis intégrée socialement et professionnellement, donc j'ai pas de soucis sur ce point-là, quoi.
Et pour corroborer vos propos, toutes les études pour le moment montrent qu'il n'y a pas forcément de traumatisme plus grand chez les enfants issus de la PMA et de couples ou de femmes seules, de couples homosexuels ou de femmes seules. Léa, malheureusement, la communication n'est pas très bonne, mais on a compris l'essentiel de votre message. Et merci d'avoir participé au grand journal du soir qui est aussi le vôtre.
18h45, François Claus.
Et on va aller très loin, on va prendre la direction de Tokyo.
Ohio.
Très loin en distance, mais plus très loin dans le temps. Imaginez-vous, oui. Fatima, nous sommes à 365 jours pile des Jeux Olympiques de Tokyo. On a encore en tête les Jeux de Rio, et voilà qu'on pense à ceux de Tokyo. Mais alors Tokyo, contexte très particulier, parce que la canicule, c'est pas seulement chez nous, c'est dans le monde entier, et c'est même à Tokyo. Et du coup, à un an des JO, on se pose bien des questions. Question que résume pour nous le correspondant d'Europe 1 à Tokyo, Bernard Delâtre.
Le record olympique de chaleur, 36 degrés aux Jeux d'Athènes en 2004, sera pulvérisé à Tokyo. Les experts l'assurent et les sportifs le redoutent, comme cette trentenaire marathonienne.
Ce sera l'horreur, c'est certain, vu la chaleur, mais aussi vu le taux d'humidité très élevé. Les athlètes vont énormément transpirer, donc ils seront très vite déshydratés. Cela dit, les sportifs nippons, contrairement aux athlètes étrangers, sont habitués à un tel climat. Donc cela pourrait les avantager en termes de médailles.
Mais des Jeux à Tokyo en plein été, et non en octobre, comme les JO de 1964, c'est de l'inconscience pour ce médecin.
Des Jeux dans des conditions climatiques aussi extrêmes, c'est une première. Et elle est inquiétante, car la santé des athlètes et des spectateurs sera mise en danger.
Car même assis dans les gradins, la santé des anciens pourrait être menacée. Un Tokyoïde sur 5 ayant plus de 65 ans, pas question de prendre de risques. L'an prochain, donc, de nombreux seniors feront comme cette septuagénaire.
J'adorerais assister à des compétitions, mais ce sera trop dangereux à cause de la météo. Donc je compte suivre ces jeux à la télé dans mon salon, avec la clim, ce sera beaucoup plus prudent.
Pour la santé de tous, l'idéal eût été de programmer les épreuves les plus dures, comme le marathon, tard dans la soirée. Mais le CIO y a mis son veto, l'audimat serait moins bon sur les grandes chaînes de télé américaines. Tokyo, Bernard Delâtre, Europe 1.
Et Europe 1 sera bien sûr Bernard Delâtre à vos côtés pour poursuivre ces Jeux Olympiques. Merci de cette correspondance.
18h, 19h, François Claus sur Europe 1.
Et à 18h47, le rappel des grands titres de l'actualité avec Sophie Echen.
Le mercure n'en finit pas de monter en France. 20 départements sont placés en alerte rouge canicule. 60 sont toujours en orange. On attend jusqu'à 43 degrés localement demain, journée la plus chaude de la semaine. La SNCF appelle à reporter ou annuler ses déplacements. Boris Johnson devient officiellement le nouveau chef du gouvernement britannique. Il a été investi aujourd'hui. Et sa priorité immédiate, mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. européenne. Cela se fera le 31 octobre, quoi qu'il arrive, même si aucun accord n'est trouvé d'ici là. L'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, c'est la mesure phare du projet de loi sur la bioéthique qui était présenté en Conseil des ministres ce matin. Prochaine étape à la rentrée, le texte sera débattu à l'Assemblée nationale. La ministre de la Santé Agnès Buzyn salue l'engagement tenu d'Emmanuel Macron. Et puis cap sur les Alpes demain pour le Tour de France. Un col de première catégorie, deux hors catégorie. 208 km entre Embrun et Valloire en Savoie. Cet après-midi, l'étape du jour a été remportée par l'Italien Matteo Trentin. Julien Alaphilippe est toujours en jaune.
Merci Sophie Hachen.
Et à suivre sur Europe 1, à la recherche d'un peu de fraîcheur, nous nous dirigerons vers les salles obscures. Les sorties cinéma du jour avec Mathieu Charrier et François Claus, restez avec nous.
Europe 1.
À 18h50, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Votre grand journal du soir avec François Claus et votre nouvel invité, Pierre Jolivet.
Bonsoir Pierre Jolivet.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs et on voulait vous entendre, Pierre Jolivet, parce qu'un vent de fronde est en train d'atteindre le monde du cinéma en France après la nomination de Dominique Boutonnat, producteur qui a réussi, hein, c'est notamment le producteur de films à très grand succès, mais qui se retrouve à la tête du CNC après avoir publié une tribune qui a fait beaucoup de bruit. Racontez-nous un peu ce contexte du cinéma français. Vous considérez que Dominique Boutonnat, c'est l'homme du cinéma ultra-libéral, ami d'Emmanuel Macron, et que ça menace la production française?
Bah écoutez, il a fait un rapport dans lequel il y a des choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui posent question. Et c'est vrai que son rapport est arrivé après un certain nombre de signaux de dérégulation envoyés indirectement par le président de la République, j'imagine, à travers l'autorité de la concurrence, à travers des rapports de parlementaires, qui semblent imaginer une sorte de vision fantasmée du cinéma français qui devrait ressembler au schéma américain, comme si en prenant les règles des Américains, on allait avoir le même succès. Je crois que c'est un fantasme et surtout une bêtise.
Expliquez-nous ce soir, Pierre Jolivet, quels sont les modes aujourd'hui de financement qui font du cinéma français une singularité dans le monde?
La grande singularité, d'abord, c'est qu'on est un système très régulé, très bien régulé, qu'il faut améliorer. Et c'est pour ça que je suis content qu'il y ait un nouveau président du CNC, parce que je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble sur tout ce qui ne marche pas. Il y a des choses, évidemment, qu'il faut sans cesse retravailler dans un système aussi complexe. Mais nous sommes un système où le préfinancement existe, c'est-à-dire qu'on finance les œuvres en amont, sur la lecture d'un scénario, sur une promesse de fabrication d'un prototype. Il faut se dire que le cinéma, c'est une industrie de prototype et personne ne peut savoir à l'avance le film qui marchera ou qui ne marchera pas. Donc décider qu'on va changer les règles pour un cinéma qui va mieux marcher, ce serait avoir en soi-même le secret magique de ce qui marche, de ce qui ne marche pas.
Parce que Boutonnat, il voulait changer quel type de règles? Il voulait quoi? Augmenter le financement privé du cinéma notamment?
Oui, si vous voulez, il y a des éléments vitaux à notre cinéma qui est quand même, faut-il le rappeler, on entend beaucoup de rapports qui disent qu'il faut changer le système français. Est-ce qu'on doit changer un système d'un cinéma qui a 40% d'entrée de son propre cinéma sur son territoire? C'est unique en Europe. On est les troisièmes au monde, donc il faut réformer un système pour l'adapter au numérique, à la mondialisation, à tout ça. Évidemment, et là-dessus, on est toujours prêt à travailler. Mais si vous voulez, il faut réfléchir aux organes vitaux de ce cinéma français qui va très très bien, qui est unique au monde. Et les organes vitaux, c'est le préfinancement. Et on envisage une mutualisation des financements du cinéma avec les séries, avec la télévision. C'est également totalement mortifère, parce que le cinéma, c'est à part. Le cinéma en permanence crée des prototypes. La télévision répète, la télévision se sert de la big data. Et donc, il faut garder cette place si particulière qui fait, il faut le rappeler quand même toujours, qu'on est premier producteur au monde de cinéma indépendant. Le monde entier vient faire des films en France. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette sorte de schéma qui garantit à l'auteur sa liberté d'expression. Dans les grandes plateformes aujourd'hui...
Ce qu'on reproche au cinéma français, derrière cette production, on produit environ 200 films par an, made in France, c'est que beaucoup de films sont produits artificiellement finalement parce qu'ils n'ont pas leur public.
Ah, donc il faudrait qu'on sache avant de faire le film s'il a un public ou pas. Vous savez que les États-Unis, je pense qu'ils font 1300 films. Il y en a 300 qui ne sortent même pas en salle, donc vous n'avez jamais entendu parler. Et nous, nous n'avons que la crème de la crème, les 300 films, les 400 films qui marchent. Mais ils ont la même déperdition que nous. Du moment que vous faites du prototype artistiquement, vous avez 80% de pertes. Croire qu'on peut changer ça, c'est une folie. Il faut réfléchir à comment le cinéma français peut être encore plus exigeant, encore plus dynamique, avoir encore plus d'argent pour faire des films qui concurrencent avec le monde entier. Mais croire qu'en France, les films ne marchent pas, mais aller en Italie, aller aux États-Unis. Et d'ailleurs, on parle beaucoup des plateformes, les séries. Vous en regardez combien de séries quand vous allez sur Netflix? Il y en a des centaines, vous regardez les 5-6 mêmes, donc il y a une déperdition de 80%, quasiment partout pareil.
Et c'est finalement la créativité, selon vous, du cinéma français, celle, la profusion de ses auteurs, qui est aujourd'hui menacée si on va vers un autre type de financement.
Ben, nous, ce qui nous importe, c'est que la France reste le pays où l'auteur peut s'exprimer. On est en face de la Chine, on est en face des GAFA, on est en face de la Russie, qui veulent bouffer culturellement cette Europe qui reste. Il est indispensable pour la démocratie de bien surveiller ce qu'est le cinéma français, sa nature, ce qui fait qu'il est imité dans le monde entier. On ne peut pas changer les organes vitaux de ce miracle. Il y a une sorte de miracle à la française que tout le monde nous envie dans le monde entier, dans une sorte de souffle de modernité. Il faut tout changer. On mettrait la bête à plat. Vous savez, Berlusconi en Italie a voulu faire ça il y a quelques années.
Il n'y a plus de cinéma italien aujourd'hui, ou très peu.
Il est mort en 6 mois.
Ouais.
En 6 mois.
Merci, et c'est pour ça qu'on voulait entendre votre voix sur l'antenne d'Europe 1. Désolé de vous couper, Pierre Jolivet, mais c'est pour ça qu'on voulait entendre votre voix sur l'antenne d'Europe 1. Et le débat est lancé, et on attend, mais on ferait bien. Oui, allez-y.
Directeur du CNC, travaillons. Nous, on est toujours pour travailler.
Et donc, voilà. Pour débattre avec Dominique Boutonnat. Merci.
Avec tout le monde, même avec Europe 1.
Et bien, surtout, et revenez très vite, Pierre Jolivet. Merci. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais d'aller au cinéma, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il y a des films français? On va le voir. Bonsoir Mathieu Charrier.
Bonsoir à tous.
Les sorties du mercredi, ben, c'est un réalisateur français, mais c'est un film américain. Et c'est typique du film d'horreur, grand frisson, ça s'appelle Crawl.
Signé Alexandre Aja, notre Frenchie qui cartonne avec ses films d'horreur à Hollywood. Alors cette fois encore, il rassemble tous les éléments d'un bon survival, d'un bon film de survie. Une tempête menace la côte ouest des États-Unis. Une fille n'a pas de nouvelles de son père. Elle part à sa recherche, le retrouve dans la cave de sa maison, blessée. L'eau monte, le vent souffle et surtout les alligators du lac voisin sortent de l'eau pour attaquer les humains. Fille et père vont donc devoir lutter ensemble. Franchement, si vous aimez ce genre de film, Crawl est parfait pour l'été, bien ciselé, 1h30 de pur suspense. Et des alligators que vous ne verrez plus du même œil. Il faut quand même dire que les requins font 300 morts par an dans le monde, les alligators, 1000, c'est QFD.
Alors, c'est peut-être pas le film qui ira voir Pierre Jolivet ce mercredi, mais peut-être que Pierre Jolivet va aller voir Give Me Liberty.
Oui, qui est un film angoissant, étouffant même, et c'est ce qui en fait tout son sel. On suit Vic, jeune américain d'origine russe, chargé de conduire un minibus qui transporte des personnes en situation de handicap. Sauf qu'il est sous la pression de son chef, qui lui impose des cadences infernales, mais aussi sous la pression de toute sa famille, de son grand-père atteint d'Alzheimer, de sa vieille tante, de ses cousins, qu'il trimballe entre deux courses avec beaucoup d'affection. Et c'est toute cette galerie de personnages qui fait l'intérêt du film. Entre cette communauté russe déjantée, une handicapée mentale qui rêve de devenir chanteuse, une jeune black atteinte d'une maladie qui l'empêche de marcher, et dont Vic va tomber amoureux. Voilà, les deux tiers de l'histoire se déroulent dans le minivan, on est assis aux côtés de ces personnages, avec eux, dans une sorte de fanfare verbale, on éprouve leurs questionnements, leurs colères, leurs angoisses, tout ça sur fond d'émeute raciale. Give Me Liberty est donc un film qui parle des oubliés de la société américaine, c'est bourré d'énergie, franchement ça vaut le coup. Je mets 3 étoiles sur 5 à Give Me Liberty, et la même chose à Crawl.
Et à vous entendre, moi j'aurais peut-être même mis 5 à Give Me Liberty. Merci beaucoup Mathieu Charrier. Alors lui, il n'a pas le temps d'aller au cinéma, mais il voit un grand film tous les jours, qui dure plus de 5 heures, 6 heures sur les routes de France. Axel May, le Tour de France et le Club Tour dans un quart d'heure.
Oui, avec la victoire de Matteo Trentin. Les amoureux du cyclisme connaissent bien ce coureur italien qui est champion d'Europe, qui a gagné notamment Paris-Tours, course de fin de saison. Et puis on va évidemment évoquer le triptyque qui arrive, celui qui nous fait, qui vous fait saliver, François, le triptyque alpin.
Ah oui, demain. Ça, 6 cols à 2000 dans les 3 jours.
dans les 3 jours, dont 3 demain. Alors ça se termine en descente vers Valloire, mais il y a quand même notamment l'Isoard et le Galibier demain. Donc croyez-moi, même sans connaître trop le vélo, on sait que ce sont des cols extrêmement durs.
Alors Axel,
est-ce que ça va toucher les organismes, parce qu'il fait aussi très chaud hein, sur la route du Tour. D'ailleurs, ça sera un débat qu'on aura dans quelques instants dans le Club Tour. Il y a des coureurs comme Peter Sagan qui disent, avec cette chaleur, monter tout là-haut sur les sommets, c'est du suicide. Donc on en débattra.
Voilà. Et on en débattra, et c'est le débat du jour avec évidemment vos consultants Thomas Veuclair et Patrick Chassé.
Merci François.
Mais de rien.